صار لي شي 100 سنة مجلوح بهالدكة، تجرب مني الحيطان ومثل حي تقوم، وانا عيني عالحلا والحلا عالقرآن، غني له غنيات هو بحاله مشغول، نطرت بوعيد الأرض وما حدا نطر. صار لي شي 100 سنة عم ألف عناوين، مش معروف لمين ودي لهم أخبار، بكرة لابد السما لتشدي لي عالبال، شمسيات وأحباب ياخدوني بجنهار. واللي ذكر كل
La magnifique voix de Fairouz du Liban pour nous accompagner dans Onde Femme, Remue Ménage, Radio Zone 93.8.
Alors, on vient d'entendre une représentante des Nana Beurre, ce groupe qui à Paris s'occupe souvent des femmes de ce qu'on appelle la deuxième génération, de celles qui sont nées ici de parents maghrébins. Et on voit qu'en France, il y a vraiment un durcissement légal vis-à-vis de l'immigration, particulièrement de l'immigration maghrébine. Est-ce qu'en Suisse, il y a aussi un durcissement, peut-être pas au niveau légal encore, mais au niveau administratif? Est-ce que tu sens ce décalage qui s'accentue entre la population immigrée maghrébine?
Sakina.
La première chose qu'on sent, on le sent pour une chose très précise, c'est par rapport au certificat d'hébergement. Il y a 3 ans, les Maghrébins pouvaient venir en Suisse sans visa. Actuellement, il faut un visa. Alors, par exemple, pour nos familles qui veulent venir nous voir en été, quand, imaginez par exemple une maman marocaine qui veut venir voir sa fille et ses petits-enfants, Si elle n'aime pas l'avion, il lui faut un visa. Elle préfère venir en train parce que c'est moins cher, ou en car ou en voiture. Il lui faut un visa pour l'Espagne, un visa pour la France et un visa pour la Suisse. Alors, cette maman, qui est déjà grand-mère, a besoin d'un certificat de travail, sinon d'un papier comme quoi elle est à la retraite. Alors, en général, les femmes de 60 ans n'avaient pas travaillé dans nos pays auparavant. Où il y a des tas de paperasses. Il faut faire la queue devant les ambassades dans les pays maghrébins, dans les capitales, pendant des heures et des heures. C'est à vous dégoûter de vouloir venir voir vos enfants. Et puis l'avion coûte cher. Et il ne faut pas oublier que c'est la population immigrée travailleuse ici qui paye tous ces frais-là. Alors en fin de compte, moi j'ai autour de moi beaucoup de gens qui laissent tomber et puis qu'ils préfèrent eux partir en vacances là-bas, même si ça nous coûte le double du fait qu'on doit ramener les cadeaux à toute la famille élargie. Donc là, c'est le premier durcissement, moi, à mon avis.
Et puis au niveau de la nationalité, parce qu'on l'a vu en France, il y avait le droit du sol, donc tout enfant né en France était français, ce qui n'a jamais été le cas en Suisse. Alors qu'est-ce qui se passe avec les enfants de parents maghrébins qui naissent en Suisse?
Ils ont, par exemple, si les parents maghrébins ont tous deux un permis C, ils ont un permis C. Mais le problème se pose, c'est pour les mariages mixtes. Quand la maman est marocaine ou algérienne ou tunisienne et que le papa est suisse, l'enfant est suisse. Mais il ne sera jamais ni marocain, ni maghrébin, ni tunisien. Surtout si le père ne s'est pas converti à l'islam et n'a pas fait un mariage religieux. À ce moment-là, les enfants sont les enfants d'une marocaine, tunisienne ou marocaine, mais ils n'ont par exemple pas le droit à l'héritage de leur mère dans le pays d'origine. En France, maintenant, il commence à avoir des conventions entre États pour la reconnaissance du mariage civil, mais en Suisse, il n'y a pas de convention pour cette reconnaissance. Je connais par exemple un couple d'arabes, mais le mari est chrétien et la femme est musulmane, de pays arabes différents. mariés civilement en Suisse, leur mariage n'est reconnu ni dans le pays de l'un ni dans le pays de l'autre. Le mariage est reconnu que dans les pays où on reconnaît le mariage civil. Alors vous imaginez les enfants pour ce couple aussi bien donc dans leur, dans les cas disons dans leur pays d'origine seront des bâtards. Mmh. Et c'est alors si des femmes maghrébines se marient par amour et demandent à leur mari suisse, donc je parle de la femme avec la femme étrangère avec un suisse demande convertis-toi, c'est pas par rapport à la foi où il va se convertir pour être un bon musulman, mais c'est surtout pour les enfants. Le droit des enfants à être reconnus en tant que citoyens du pays d'origine de leur mère, même s'ils porteront jamais de toute façon la nationalité, puisque c'est pas la mère qui transmet la nationalité dans les pays du Maghreb, au moins qu'ils aient des droits. Et que quand eux, ils vont tous ensemble en voiture, en vacances, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, qu'ils soient pas obligés de prendre deux chambres séparées, parce que leur mariage n'est pas reconnu. Un mariage civil n'est pas reconnu, mais un mariage religieux est reconnu. Alors ce mariage religieux peut se faire dans des consulats à Lyon, pour Genève, et on leur fait un tampon. Et ils auront le droit d'avoir une chambre matrimoniale, comme on dit, dans un hôtel.
Mais les obstacles que tu présentes là, Sakina, sont liés au retour dans les pays d'origine de la mère étrangère dont tu viens de parler. Mais pour ce qui concerne la Suisse, est-ce qu'un enfant court le risque, de, par exemple, de se voir expulsé de Suisse parce qu'il n'aurait pas le droit de séjourner en Suisse ?
Non, si ses parents ont des papiers en tant qu'immigré ou en tant que citoyen suisse, non, il n'y a aucun problème. Une Marocaine avec un permis C ou un couple de Marocains avec un permis C ou un permis B ont le droit de faire autant d'enfants qu'ils veulent. L'enfant prend donc les permis d'établissement de ses parents. Ça, il n'y a aucun problème.
Et en Suisse, il y a peu de ressortissants du Maghreb qui n'ont pas de permis B ou C, je veux dire, non. Dans le sens que ce n'est pas la situation la France.
Non, absolument pas. Absolument. Bon, les clandestins, je ne sais pas s'il y en a ou pas, on n'entend pas parler. C'est plutôt les clandestins par rapport aux réfugiés ou autres, mais les Maghrébins, peut-être qu'ils en existent, ça, certainement. Mais,
Il y a un autre... je pense que la plupart des populations maghrébines dans nos pays, et peut-être plus particulièrement les femmes, sont coincées effectivement entre une montée un durcissement administratif et légal, une montée du racisme, et puis de l'autre côté, peut-être par un durcissement identitaire, une montée aussi du rattachement culturel, si je peux l'appeler comme ça, je ne sais pas très bien comment on pourrait l'appeler, c'est-à-dire et qui se manifeste entre autres peut-être par les mariages forcés. Est-ce qu'en Suisse, vous êtes aussi confronté à ce problème qu'on renvoie les jeunes filles pour se marier dans leur pays d'origine ?
À ma connaissance, non. On n'a jamais eu de cas de ce genre. Jamais personne ne nous en a parlé. Peut-être qu'il en existe, je ne sais pas. L'immigration en Suisse maghrébine est jeune. Hein. On peut considérer qu'il y a une dizaine d'années. Donc, par exemple, je vois mon cas, ma fille a 18 ans. Beaucoup de mes amis autour de moi, on a des enfants de 15 à 20 ans. Alors, je ne sais pas, les problèmes de mariage, on n'a pas encore confronté. Alors, quand ils vont se poser, je ne sais pas comment les parents vont réagir. Pour ce qui est de mon cas, je ne pense pas que ma fille aurait envie de se marier tout de suite. Mais...
En tout cas, Nadia, la deuxième intervenante de cette journée, Nadia qui a monté une organisation qui s'appelle Safia à Lille. Safia, c'est la solidarité avec les femmes d'ici et d'ailleurs qui tente justement de tisser des liens entre femmes et filles d'origine maghrébine et femmes françaises, nous parle de cette montée de l'intégrisme en France et des conséquences que ça peut avoir sur la vie des femmes.
Et puis, un des autres problèmes ou dangers auxquels vous vous affrontez, c'est la montée des intégrismes, à la fois dans les pays d'origine, entre autres en Algérie, et à la fois en France.
Oui, on se rend compte sur le terrain maintenant, puisqu'on y est depuis 4 ans, c'est que il y a partout dans le monde, à cause sûrement de la crise économique, si crise économique réellement il y a, moi je dirais que c'est une mauvaise répartition des richesses, mais on est confronté à toute forme d'extrémisme, qui sont montées en Europe ou ailleurs. Hein. Alors, pour des pays peut-être un peu moins industrialisés, ça se présente sous une forme d'idéologie religieuse, hein, que ce soit le fils en Algérie ou les ayatollahs en Iran ou ailleurs. En France ou en Occident, c'est sous des formes d'extrême droite, voire nazillonne par endroits. Et je crois qu'on assiste de plus en plus à une montée des intégrismes. Nous, sur le terrain, on est confronté effectivement non seulement à l'extrême droite, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est victime du sexisme et du racisme, parce qu'on est victime du racisme de par par les extrêmes droites classiques françaises, et en même temps, on est victime d'un racisme et d'un sexisme aussi de la part des gens intégristes qui sont originaires de certains pays du Maghreb.
Alors concrètement, par exemple, on a beaucoup parlé de l'affaire des voiles en France, même si ça semble avoir touché très peu de femmes ou très peu de filles, plutôt parce que c'est des petites filles souvent qui sont vraiment prises en otage, on a l'impression, par tout le monde. Comment est-ce que vous, en tant que Safia, ou par exemple les Nana Beurre, qui sont un peu une organisation du même style que la vôtre, réagissent face à d'un côté face au problème et de l'autre côté face à la médiatisation de ce problème?
Effectivement, il y a une très forte médiatisation du problème et peut-être que ça a permis au foulard de germer un peu plus qu'il n'y en avait. Je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais en tout cas, moi j'en ai eu conscience, surtout à travers les quatre foulards. Quand j'ai vu, la première fois que j'ai vu des foulards, c'était à la télé. Auparavant, ça ne me choquait pas, ça ne me frappait pas. Et sur les quatre mois de cette médiatisation malheureuse, je me suis rendu compte dans des lycées où, par exemple, il y avait une forte concentration de population étrangère, il y avait plein de foulards. On est aujourd'hui confronté sur le terrain à des actions auprès des assistantes scolaires, sociales scolaires, des CPE ou des enseignants pour intervenir là-dessus, quoi. Donc notre position, elle est claire, hein, c'est que nous on dit pas de foulard parce que pour nous c'est pas un insigne religieux, c'est un insigne idéologique. Maintenant on dit pas oui à l'exclusion des filles de l'école parce que je trouve que c'est par là qu'elles avanceront et qu'elles s'intégreront dans la société, hein, socialement et culturellement. C'est plus elles auront accès au savoir et mieux elles s'en sortiront. Mais ça n'empêche que, par exemple, je me pose des questions sur ce que je viens de dire, puisqu'il y a aussi des étudiantes en fac qui portent des foulards. Et là, le questionnement est beaucoup plus important. Moi, je me reporte surtout peut-être à une crispation identitaire en rejet par rapport au rejet du racisme ambiant aussi. Je ne sais pas si je me suis clairement exprimée. Je pense que c'était sur ce plan-là qu'il faut l'attaquer, quoi. Fini les exclusions sociales, et on aura peut-être un peu moins de problèmes de foulard ou autre.
Concrètement aussi, en tant qu'organisation, vous êtes en lien aussi avec vos pays, les pays d'origine, et entre autres avec les femmes qui, là-bas, se bagarrent contre la violence, et aussi, par exemple, contre le port du foulard dans leur pays. Et par exemple, vous avez raconté le cas de femmes qui sont arrivées chez vous dans des situations terribles.
Oui, on a eu le cas de deux jeunes filles qui n'ont pas voulu se soumettre au test du voile et qui ont été vitriolées. Heureusement pour elles, elles ont su se protéger. Le visage, ça va encore, quoi, surtout les mains. Et qu'elles ont réussi surtout à venir en France et on a réussi à les régulariser. Pour nous, ça a été vraiment très important et peut-être ça nous a encore plus dynamisé au niveau de l'aide qu'on peut effectivement apporter aux femmes qui se battent dans le monde entier, quoi, contre ces systèmes idéologiques basés sur la religion et sur la discrimination par le sexe, quoi, parce que les femmes ne sont même pas attaquées sur une discrimination, je dirais, politique ou autre. Elles sont attaquées parce qu'elles sont femmes, donc sur une discrimination sexiste.
Mais vous vouliez obtenir l'asile politique pour ces femmes, vous n'avez pas réussi à l'obtenir.
Non, malheureusement, on se bat depuis 4 ans pour que soit spécifié sur la Convention de Genève, sur le paragraphe, on pourrait accorder l'asile politique en raison de la religion, etc. Et on voulait rajouter, et pour discrimination sexiste, ou en raison du sexe, mais que ça soit mis. Parce que depuis l'affaire des Iraniennes, on a vraiment eu conscience de ce phénomène-là, de cette discrimination sexiste. Encore plus flagrant avec quelque chose qui nous est proche et qui est encore sous les phares de l'actualité, hein, l'Algérie. سمعت بذول عيالهم هيا لا 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 محولي تقفز نقاتي
La très belle voix que vous venez d'entendre est celle de Marguerite Taos Amrouche, qui est une chanteuse algérienne, poétesse, Sakina, tu disais.
Oui, surtout poétesse. Oui, surtout poétesse.
Et qui chante des chants berbères de Kabylie. Donc Kabylie, une des régions de l'Algérie. Alors, je crois que nous avions envie de revenir, Sakina, sur le problème de l'identité. Parce que Nadia, on lui a posé la question du problème du voile, par rapport à comment il se situe par rapport aux intégrismes. Mais c'est évident, elle a abordé le problème de comment se situer, comment s'imposer par rapport à peut-être d'autres exclusions sociales. Il y a cette nécessité d'exister. Est-ce que vous ressentez ça en Suisse, par exemple ? Cette identité à tout prix à affirmer ?
L'identité absolument affirmée, bien sûr qu'on la ressent très fortement, surtout depuis la guerre du Golfe, où on s'est rendu compte du rejet de l'autre d'une manière concrète, premièrement par les médias, par la population, et c'était l'arabe le mal aimé, l'arabe la faute de l'arabe, et c'est pour ça que, bon, moi je sens... personnellement et puis autour de moi, qu'il y a eu un retour à cette culture et puis à l'affirmation de notre culture. Donc, elle s'exprimait depuis 2 ans, surtout pendant la période de la guerre du Golfe, par donc le keffieh palestinien qu'on portait toutes, et puis après par notre forme de nous habiller. On parlait plus facilement dans le bus notre propre langue. Au début, c'était, comme on disait, un exil doré, tranquille. Où on vivait tranquillement en société ici. Et depuis la guerre du Golfe, il y a eu. Et puis c'est, moi, je trouve que c'est nos enfants qui nous ont amenés à réfléchir. Je vois dans notre groupe, c'est surtout les enfants qui disent, qui veulent savoir, qui veulent connaître, et ce retour aux sources qu'on nous impose. Par exemple. Il y a une amie qui a dit bon, ce soir on mange la raclette, et puis son gamin qui lui dit non mais qu'est-ce que ça veut dire ça, et le couscous et le tagine, qu'est-ce que c'est encore ces histoires de raclette, ça vient pas de chez nous. et moi je suis d'accord avec Nadia quand elle dit que même l'histoire du viol du voile, en fait c'est un viol de nous dire ne portez pas de voile. Si des femmes qui ont la foi, quelle qu'elle soit, ont envie de se couvrir, à la limite ça les regarde, surtout quand c'est des jeunes filles. Moi je vais pas dévoiler les femmes, je vais pas
Justement, sur cette question du voile qui a beaucoup agité, on a beaucoup parlé, on a l'impression que c'est un des points d'accrochage, en tout cas ça se voit. Hein. Alors le voile, effectivement, ça peut être juste le reflet de sa religion. Moi, par exemple, je le vis beaucoup plutôt comme le reflet d'une oppression. C'est-à-dire, effectivement, on voile pas n'importe qui, on voile des femmes. Et c'est ces visages-là, ces corps-là qu'il faut cacher et en même temps exclure. Alors, que répondre toi, par exemple, comment est-ce que tu réagis par rapport à des femmes voilées?
Alors, moi, je viens de la moitié des trois quarts de ma vie, je les ai passés dans une culture, dans un pays donc, qui fait partie du monde arabe, qui est un pays à constitution islamique, où le problème ne s'est jamais posé, dans le sens que je vis dans un paysage où il y a des femmes qui portent le voile par tradition, par culture, pour sortir... On met le foulard, hein, on met la djellaba, et actuellement, des femmes qui portent le voile par volonté, parce qu'elles ont décidé que c'est la volonté de Dieu, mais pas de l'homme, hein, selon elles. Donc j'ai vécu dans cette atmosphère, je ne peux pas répondre d'une manière claire à cette question, parce que je n'ai pas trouvé de réponse. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très, très personnel. Et comme je respecte beaucoup, dans cette atmosphère aussi où l'identité de la femme en tant que telle n'est pas reconnue par rapport à un statut politique, on ne peut pas dire à ces femmes « dévoilez-vous » ou « le voile est une forme d'oppression parce que c'est l'autre qui te demande de le faire ».
Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Nadia, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle s'oppose, donc Nadia et son groupe, au foulard dans la mesure, à leur avis, c'est devenu un signe idéologique et non plus seulement de respect religieux ou enfin de choix religieux. Pour elle, clairement, c'est devenu l'insigne de l'imposition du FIS ou tout autre mouvement intégriste. Et c'est ça qu'elle rejette. En Suisse, on n'est peut-être pas confronté de façon si forte à ça.
Voilà,
quoi, c'est
absolument.
Évident.
Et puis, par exemple, au Maroc, parce que je suis d'origine marocaine, et puis je connais aussi les pays du Moyen-Orient où j'ai vécu, jusqu'en 86, l'histoire du voile ne se posait pas de la même manière et n'était pas vécue de la même manière. Alors, je n'ai pas de réponse. Mais c'est vrai que moi-même, quand je vois, quand j'étais en Algérie, puis que je vois les différents voiles, les tchadors que les femmes portent selon le mouvement qu'elles suivent, vous avez les mouvements des Afghans, donc c'est noir, elles sont complètement voilées comme une tente, elles portent la tente, et il y a juste des trous où elles peuvent voir. Moi, ça me choque parce que ce n'est pas notre culture au Maghreb. Hein. Notre culture, c'est la culture du haïk. Donc, c'est ce drap blanc qu'on porte autour de nous. Donc là, c'est vrai que c'est un signe idéologique clair et qui fait peur. Après, nous avons celles qui ont le voile, les différentes modes du voile, qui portent le voile à l'iranienne aussi. Donc ça, c'est les tendances du Hezbollah. Et vous avez celles qui portent le foulard tout à fait autour. Ça, c'est ce que j'ai vu en Algérie, qui portent le voile blanc. Ça, c'est les sunnites, les modérés. Et moi, en tant que de culture musulmane, ça me choque. Mais je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas accès à la discussion avec ces femmes, puisque de prime abord, elles me rejettent, alors que moi je serais très curieuse de savoir ce qu'elles ont dans la tête. Je serais très curieuse de discuter avec elles et de comprendre. Jusqu'à présent, aucun média, personne n'est allé vers ces femmes, donc dans les pays d'origine, et dire pourquoi vous portez le voile. On n'a eu aucun journaliste qui est allé ouvertement faire une émission avec ces femmes de différentes tendances idéologiques par rapport à l'islam et leur poser cette question. Ça serait très intéressant de savoir ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent et le pourquoi et le comment.
Et parlons plutôt des femmes qui sont voilées ici et plutôt même des petites filles, parce que c'est souvent ce problème-là qui se pose. Et en tout cas, c'est celui-là qui sort le plus fortement. En tout cas, c'est celui-là qui choque. Comme tu disais avant, on remarque les petites filles voilées. Il y a toute une disputes autour de ces petites filles voilées. On dit rien sur les femmes, les jeunes femmes voilées, par exemple à l'université ou même dans les lieux de travail où il y a de plus en plus beaucoup de femmes voilées, surtout en France. Alors, par rapport à ces petites filles voilées, dont on se dit vraiment elles sont utilisées elles sont prises en otage. Elles sont coincées entre deux systèmes. Comment peuvent-elles en sortir? Par rapport à ce qui se passe en Suisse, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, la seule chose, premièrement, ça me choque qu'une petite fille de 12, 13 ans, de 10 ans porte le voile dans une société occidentale, dans le sens que c'est une société où il faut une liberté de mouvement déjà. Hein. Donc, quand on va au lycée, à l'école, etc., on fait la gym, on bouge. C'est pas une école de jeunes filles ou une école de filles, c'est une école mixte. On porte un pantalon parce qu'on doit bouger. C'est actif. Hein. C'est pas quelque chose de tranquille comme chez les bonnes sœurs ou comme dans des couvents. Moi, je ne sais où. Alors, pour moi, déjà, l'insigne de voir des petites filles aller à l'école ou au lycée avec ça, pour moi, c'est comme ça ne correspond pas du tout. Hein. Donc, en second lieu, moi, ce que je me pose comme question, si les parents veulent imposer à leur petite fille de mettre le voile, hein, ben, ils n'ont qu'à créer des écoles musulmanes, hein, comme les Israélites l'ont créé, comme les catholiques l'ont créé, pour recevoir vraiment l'éducation religieuse que la famille impose à ses enfants, hein, jusqu'à la majorité. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la chose qui me dérange, et ça, c'est par rapport à la France, c'est qu'au lieu d'aller directement vers les parents, s'affronter directement avec les parents, on utilise des petites filles, alors qu'on sait très, très bien, on est toutes passées par là, que 12, 13 ans, toutes les petites filles du monde se posent la question de Dieu, l'existence de Dieu, est-ce qu'il existe ou pas, alors qu'on laisse ces petites filles tranquilles porter le voile. Et l'avenir, le futur, l'évolution, l'école les changera peut-être.